Chapitre 53. À la lumière vacillante des torches, si concentrée qu'il en perdait toute notion du temps, Richard, nu comme un ver, traçait un sortilège complexe dans le sable de sorcier. Apparemment satisfait de son travail, il leva les yeux, sonda le ciel obscur derrière la verrière du toit, puis commença à réciter l'incantation en haut d'Aran. Immergé dans sa transe, il garda néanmoins un œil sur l'astre nocturne. La veille, Jagang lui avait laissé jusqu'à la nouvelle lune pour livrer le palais et Nietzsche. Jour après jour, la lumière blafarde diminuerait jusqu'à disparaître complètement. Verna, Benjamin Meffert et Kara avaient tous affirmé qu'une reddition était hors de question. La dame abbesse soutenait qu'il ne fallait pas céder à des croyances perverses et leur donner une sorte de caution morale. Le général, plus pragmatique, ne croyait pas un mot des propos du tyran. Puisqu'il ne tiendrait pas parole, de toute façon, à quoi bon lui faciliter la tâche? Persuadé que l'affaire était entendue, la mort de Sid préférait lutter jusqu'à la fin et emporter autant d'ennemis que possible avec elle. Nathan et Nietzsche avaient écouté tout le monde et ils hésitaient toujours sur la décision à prendre. Richard n'avait fait qu'un commentaire. Tous ses compagnons avaient une idée bien arrêtée sur la façon dont il préférait mourir, mais aucun ne lui avait proposé un plan susceptible de renverser la situation. En d'autres termes, il pensait au problème, pas à la solution. Le sourcier, lui, savait qu'il n'avait qu'un moyen d'approcher des boîtes d'Ordaine, une vérité fondamentale que ses amis n'avaient aucune envie de regarder en face. Le temps coulait comme du sable entre les doigts de Richard, et cette fois il n'y aurait pas de répit miraculeux. Écrasé par le poids de ses responsabilités, le sourcier avait une fois de plus opté pour l'action. Prêt ou pas, il devait se jeter à l'eau. Alors qu'il récitait son incantation, il n'éprouvait rien, exactement comme lorsqu'il traçait des lignes dans le sable. Dans son cœur, il y avait uniquement de la place pour Kalan et ses compagnons les plus proches, et dans son esprit, seuls comptaient les choix qui lui restaient encore offerts, ou plutôt qu'il avait fait en sorte de se garder offerts. À chaque instant, il devait se forcer à ne pas laisser ses pensées se fixer sur ce qui serait bientôt perdu. Pleurer sur le leurre renversé ne servait à rien. Il fallait chercher un moyen de triompher et ne surtout pas envisager la défaite, exactement comme sur un terrain de Jala. Richard ne détenait pas les boîtes d'Ordaine et pas davantage l'original ou la bonne copie du grimoire des ombres recensées. Cela dit, il savait, grâce aux lectures de Nietzsche, par exemple le livre de la vie, qu'un certain rituel était indispensable pour que la magie d'Ordaine neutralise la chaîne de flammes. Pour lui, combattre le sort d'oubli était essentiel. S'il mettait la main sur les boîtes, ce serait son objectif unique. Mais avant d'en arriver là, il devait accomplir le rituel en question. C'était incontournable et s'il échouait, la suite n'aurait plus aucune importance. C'était aussi simple et mortel que ça. Plus vite il essaierait et plus tôt il saurait si le camp de la liberté avait ou non une chance. Et s'il mourait dans le processus, Nietzsche, Nathan et Verna auraient au moins un peu plus de temps pour imaginer une autre façon d'éviter l'inévitable. Jagang avait une multitude de choix tactiques à sa disposition. Pas Richard. Ulyssia se chargeant d'ouvrir la bonne boîte pour lui, l'empereur n'aurait pas besoin de s'aventurer dans le royaume des morts. Et la sœur de l'obscurité avait déjà, avec le domaine du gardien, tous les liens requis pour activer la magie ordénique. Pour Richard, c'était l'inverse. Et il allait devoir se forger ses liens à la force du poignet. Comme dessiner un sortilège, réciter une incantation était une affaire de continuité entre les causes et les effets. Derrière cette formule alambiquée se cachait une réalité des plus simples. Pour que ça marche, il fallait que la bonne personne dessine les bons sortilèges et récite les bonnes paroles. Quand ces conditions étaient réunies, le don du sorcier conférait la force nécessaire à tous les éléments impliqués dans le processus. « Une simple affaire de séquence logique », affirmait Nietzsche. L'officiant n'était absolument pas obligé d'éprouver des sentiments violents. Richard espérait que son ami ne se trompait pas, et autour de lui, tout le monde voulait croire qu'il en était bien ainsi. Nathan partageait les angoisses de ses compagnons. Chez lui, elles étaient peut-être encore plus fortes, car les prophéties ne laissaient aucun doute. L'avenir de la vie se jouait là, et le grand vide la menaçait plus que jamais. Le mari défunt de Verna, Warren, considérait les boîtes d'Orden comme un portail. À l'époque où Richard était prisonnier au palais des prophètes, Warren craignait que les boîtes aient déchiré le voile, permettant aux gardiens de s'introduire dans le monde des vivants. Si les artefacts pouvaient faire office de portail entre le royaume des morts et celui des vivants, pourquoi ne pourraient-ils pas servir à voyager dans le sens inverse? Et pourquoi ne serait-il pas également un passage ouvert sur le grand vide qui inquiétait tant Nathan? Conscient qu'il invoquait un pouvoir directement lié à la magie ordénique, Richard savait parfaitement que son incursion dans le royaume des morts risquait de mal tourner, par exemple en le propulsant accidentellement dans le néant intime dont il portait, comme tout un chacun, la graine au plus profond de son être. La nuit même, le sorcier avait eu une très longue conversation avec le sémillant Nathan, son ancêtre. S'il réussissait son coup, le prophète devrait reprendre son rôle quelque peu frustrant de seigneur râle par intérim. Même si Richard restait absent très peu de temps, on ne pouvait pas laisser ses fidèles sans protection. Privés du lien, tous les combattants de la liberté deviendraient vulnérables aux assauts de Jagang, soudain en mesure de s'introduire dans leur esprit. Nathan était prévenu. Si son lointain descendant ne revenait pas, ce serait à lui de prendre les décisions et de les mettre en œuvre. Penché sur l'étendue de sable blanc, Richard utilisa son avant-bras pour lisser la surface où il s'apprêtait à dessiner la série suivante de runes. Puis, il entreprit de tracer l'essor secondaire complexe qui gravitait autour du diagramme principal. Pour maîtriser ces symboles hautement sophistiqués, il avait passé des heures à s'entraîner, les reproduisant à l'infini sur des rouleaux de parchemin. Pendant qu'il s'échinait, Nietzsche n'avait pas cessé un instant de le guider. Debout derrière lui, elle s'était assurée qu'il ne s'éloignait pas des formes originelles et que son trait restait ferme malgré l'épuisement dû à la concentration. Cette fois, personne ne regardait par-dessus l'épaule du sorcier. Travaillant sans filet, celui que Nietzsche avait désigné comme le joueur devrait s'acquitter seul de sa création majeure, car elle devait porter la signature de son don et aucune autre. Sur le sable blanc, les flammes vacillantes des torches projetaient toute une constellation d'étoiles miniatures aux clignotements hésitants. Comme hypnotisé par ce spectacle, Richard s'immergeait de plus en plus profondément dans son monde intérieur. À dire vrai, il s'y perdait. Quand il entreprit de dessiner le sortilège terminal, Richard se focalisa entièrement sur cette tâche cruciale. Procédant par étapes, il se consacra à l'élaboration de chaque élément comme s'il s'agissait du tout. Puis, il fit en sorte de lui allouer une place, sur le plan conceptuel certes, mais aussi physiquement, dans le contexte bien plus large du sortilège. Alors qu'il réalisait des peintures de guerre sur lui-même et sur ses joueurs, il s'était aperçu que cette activité était bizarrement très proche de l'escrime. Tout était affaire de mouvement, de rythme et de fluidité. Alors qu'il invoquait des forces et des créatures appartenant au royaume du gardien, il semblait logique que chaque composant du sort contienne quelques éléments de la danse avec les morts. Et comme lorsqu'il se battait, chaque geste devait être fait au bon moment et avec une impeccable précision. En un sens, dessiner un sortilège revenait à danser avec les morts. Quand Richard maniait son épée, c'était pour rester en vie. Accessoirement, il semait la mort dans les rangs de ses adversaires. L'œuvre magique qu'il était en train d'accomplir avait une multitude de points communs avec ses moments de tension extrême. Au combat, le sorcier savait que la plus infime erreur lui coûterait la vie. Un quart de seconde de retard, voire moins, et la parade ou l'esquive les plus sophistiquées échouaient lamentablement. Quand il dessinait dans le sable, c'était la même chose, et s'il se trompait, il ne survivrait pas. Comme sur un champ de bataille, l'expérience était exaltante. Tel un homme d'épée, il s'était entraîné pendant des heures à dessiner les runes et les emblèmes. Après tant d'efforts, il les connaissait par cœur, d'autant plus qu'il s'était offert une répétition générale avec les peintures de guerre. Quand on possédait son sujet à ce point, on pouvait se lancer dans l'action en relâchant tout contrôle conscient de l'esprit sur le corps. Les réflexes s'enchaînaient tout seuls. Le résultat d'un travail acharné qui passait parfaitement inaperçu aux yeux des profanes, et on évoluait comme un funambule sur le fil très mince séparant la vie de la mort. Même s'il aspirait profondément à la paix, Richard devait connaître qu'il y avait dans le combat une vérité transcendantale qu'un être humain n'était pas souvent en mesure de sentir et d'intégrer, sauf quand il dessinait des sortilèges mortels. Privé de son arme depuis assez longtemps, Richard était sincèrement heureux d'éprouver les sentiments qui l'animaient lorsqu'il la brandissait contre ses ennemis. Au fond, tous les moments vraiment déterminants d'une existence se ressemblaient, puisant dans le même trésor d'énergie et d'émotion. Dès le jour où Zed lui avait tendu l'épée de vérité par-dessus une table devant sa demeure, Richard avait fait le premier pas qui le conduisait vers cette expérience ultime, la survie du monde dépendant alors de sa concentration et de sa précision. De la sueur ruisselait sur son front, mais il ne perdait pas de temps à l'essuyer. À cet instant, tout ce qui risquait de le distraire devait être banni de son esprit. Coupé du temps et de ses compagnons, le sourcier ne faisait plus qu'un avec les dessins qu'il traçait inlassablement dans le sable. Son épée au poing, il éprouvait la même sensation, devenant très vite incapable de faire la différence entre son corps et la longueur d'acier scintillant qui le prolongeait. Devant un bloc de marbre, un burin à la main, il éprouvait exactement la même chose. Car il y avait un point commun à toutes ces activités. Prendre une vie, invoquer le royaume des morts ou éliminer de la matière d'un bloc était incontestablement une forme de destruction. Mais dans le même mouvement, il s'agissait de la plus pure variante de création possible. Quand il s'avisa que tout était accompli, chaque élément ayant trouvé sa place dans l'ensemble, le sourcier s'assit le dos bien droit et posa les mains sur ses genoux. Alors, il vit, pour de bon, l'horreur qu'il venait de dessiner dans le sable de sorcier blanc. Une image de ce qui attendait le monde des vivants si rien ne se passait. Orientant vers le ciel les paumes de ses mains ouvertes, Richard ferma les yeux et prit une profonde inspiration. C'était son ultime possibilité de reculer. S'il devait renoncer devant l'obstacle, il devait le faire maintenant. Dans quelques secondes, il serait définitivement trop tard. Le sourcier leva la tête et rouvrit les yeux. « Viens à moi, » murmura-t-il en haut d'Aran. Un silence de mort suivit cette incantation aussi simple que radicale. Puis le sol trembla et un rugissement retentit. Telle une mince colonne de fumée, une silhouette vaporeuse prit forme au centre du diagramme magique. Comme si elle montait du sol ou peut-être du sortilège lui-même, cette masse blanche prit peu à peu l'apparence d'une femme en robe blanche. Sous ce spectre, le sable s'ouvrit, permettant aux ténèbres du royaume des morts de créer un vide béant au cœur même du royaume des vivants. La femme en robe blanche écarta les bras. On eût dit assister à l'éclosion d'une fleur avide de s'exposer à la chaleur et à la lumière du soleil. Flottant au-dessus du portail obscur, le spectre attendait. Richard se leva lentement. « Merci d'avoir répondu à mon appel, Dena. » Un magnifique sourire, pourtant poignant de tristesse, se dessina sur les lèvres de la femme. Puis elle tendit une main et caressa la joue de Richard. « Toute la tendresse du monde, voilà ce qu'exprimait ce geste. Grâce à ce contact, le sourcier sut qu'il serait en sécurité avec Dena. En tout cas, autant qu'on pouvait l'être dans le royaume des morts. » Dans l'ombre des arbres où Richard lui avait demandé d'attendre, Nietzsche vit son ami se lever pour faire face à une silhouette éthérée d'une incroyable beauté. Un esprit plein de grâce et de dignité. Devant cette image impressionnante de sérénité et d'harmonie, l'ancienne maîtresse de la mort sentit des larmes lui monter aux yeux. Alors que son cœur s'emplissait de joie, elle éprouva en même temps une incoercible terreur en pensant à l'endroit où ce fantôme allait entraîner Richard. À l'instant où l'apparition entourait le sourcier de ses bras, le coupant du monde des vivants, Nietzsche avança pour se placer dans le cercle de lumière des torches. Bon voyage, mon ami. Bon voyage. Murmura-t-elle tandis que le spectre s'enfonçait dans les entrailles de la terre avec l'homme qu'il avait invoqué. Une fraction de seconde avant que l'ouverture se fût refermée, une silhouette noire se matérialisa juste au-dessus, parut hésiter un bref instant, puis plongea dans le portail obscur. La bête avait de nouveau repéré Richard, puisqu'il s'était servi de son pouvoir. Désormais, elle le poursuivait dans le royaume du gardien d'où elle était elle-même issue.